Radio Barque 10e, notre deuxième partie, comme nous annoncions tout à l'heure dans notre sommaire, va évoquer une formule qui rime, qui est jolie. Saupoudrage et gaspillage seraient, selon toi, Michel, les deux mamelles de la nouvelle région Occitanie.
Oui, ce qui me fait dire ça, Jean-Claude, c'est que l'autre matin, dans descendant de mon appartement, je trouvais, comme d'habitude, hein, assez régulièrement, un paquet de réclames qui avait été posé par un quidam là-dedans, dans mon entrée.
Je fais le tri
et dans le paquet, je trouve le journal officiel de la région Languedoc-Roussillon. Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Le JO d'Occitanie.
Passons sur le papier. Allons vite. Je le feuillette, évidemment, et puis consterné quand même. Consterné. Je pensais, mais sans grandes illusions, que les objectifs visés par le législateur, à savoir fin des financements croisés, claire répartition des compétences, spécialisation de la région sur des programmes structurants, seraient illustrés par des exemples probants. Avec un nid. Hein. C'est tout le maire, mais alors qui est un peu fièrement exposé. Saupoudrage et dispersion sur des micro-événements ou projets pratiquement dans tous les départements. Ainsi, Claude, j'apprends que 20 millions d'euros sont distribués aux petits clubs sportifs pour l'acquisition de petits matériels. Ce qui fait à peu près en moyenne 1300 euros pour chaque club. Hein. Ce qui, entre parenthèses, rend le traitement administratif de ce programme plus cher que le montant des subventions distribuées.
Et on a, alors, donc pour, ça, pour illustrer. Pour parler simple, ça coûte plus cher de gérer la distribution des sous que de répartir les sous.
Et alors pour illustrer cette politique extraordinaire, bon, évidemment, on fait parler des présidents de clubs, comme notamment Monsieur Yvan Fourcade, lui, qui préside l'association d'escalade de La Capelle Marival, je ne sais pas où c'est, hein, bon, peu importe, qui a reçu 1500 euros. Hein, et qui est très content, évidemment, il le dit dans la presse.
Non, hein. C'est quand même une grande information, La Capelle Marival.
Et pour acheter quoi, Jean-Claude? Pour acheter des prises de murs, des chaussons et des baudriers pour les enfants.
Ah, des baudriers, oui. Alors, précisons les baudriers.
Baudriers pour les enfants.
Oui, quand même. Ah, donc,
toi, c'est important, ça. L'action structurante de la région, en fait, qui consiste à permettre à une association d'acheter des baudriers pour les enfants.
Oui, c'est bien qu'on veut monter sur les hauteurs, quand même. Alors, c'est symbolique, ça.
Et quand on continue à faire la lecture de ce journal officiel, on apprend que pour gérer cette compétence, selon l'organigramme de la région, il y a deux directeurs. Hein, un directeur et une directrice déléguée. Évidemment, qui dit directeur, qui dit directrice déléguée, dit secrétaire, en fait, bon, collaborateur, etc. Bon, il faut que tu aies à peu près une dizaine de personnes, quoi. Hein. Une dizaine de personnes pour 20 millions d'euros, en fait, et pour distribuer 1500 euros de subvention en moyenne. On est vraiment dans la folie pure, quoi. Hein. Alors, si on ajoute à ça, quand même, hein, le fait que Madame Delga a fait à l'intention, parce qu'évidemment, il ne peut plus travailler, maintenant, on part des expos de Montpellier. Hein, on veut agrandir Nice, lieu Toulouse, Nice, lieu de Languedoc-Roussillon, et comme elle s'est engagée à ce que toutes les réunions du Conseil soient effectivement Montpellier, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va acheter, faites un immeuble neuf pour le rénover, faites faire effectivement une salle qui convienne à nos conseillers régionaux. Voilà encore, enfin, un effet positif de la fusion. Enfin, troisième information que je livre à nos auditeurs, qui est d'ailleurs, que j'ai lu dans le supplément réalisé par l'Express sur la région Occitanie. La fusion des services administratifs de ces deux régions. Est-ce que tu sais combien ça va coûter par an pour la mise à niveau des salaires des fonctionnaires?
Non, mais nous allons savoir et ça va nous espanter, comme on dit.
2 millions. Non, pardon, 4 millions. 4 millions d'euros par an pour les salaires, les traitements, pardon. Les traitements, ce sont des fonctionnaires, pas des salaires. Et 2 millions qu'il faut rajouter pour les prestations, les avantages sociaux. Voilà de belles illustrations de ce que produit aujourd'hui la fusion des régions qui avait été présentée comme une fusion.
Un grand modèle d'économie.
Comme une fusion qui se traduirait par des économies d'échelle en fait, importantes, par une redéfinition des compétences et dans une concentration des efforts d'énergie de la région, c'est des programmes structurants. Et bien voilà, on en est là.
Bah on est complètement à côté de nos
complètement
pompes.
Complètement à côté de la pompe. Et on voudrait qu'après les électeurs ne soient pas, dubitatifs ou interrogatifs sur, la manière dont les politiques s'emparent effectivement des textes qu'ils produisent eux-mêmes dans ce genre de situation.
Alors, Narbonne, nous y revenons, avec la grande salle multimodale qui est un petit peu ton cheval de bataille aujourd'hui, et tu as finalement quand même des munitions sur...
Oui.
Tu as fait un billet vers lequel on va renvoyer nos auditeurs, parce que c'est complexe, très très complexe,
très complexe.
Essaie de, quand même de poser les jalons.
Oui, alors c'est un billet dans lequel je pose quelques questions que j'aurais aimé poser, de vive voix d'ailleurs, à madame Nathalie Granier-Calvé, qui fut la déléguée, la déléguée à l'urbanisme et à toute une série d'autres domaines de compétences de monsieur Mouly, mais qui depuis a démissionné.
Oui.
Cela dit, elle a démissionné, mais elle est toujours conseillère municipale, donc je lui pose ces questions à titre de conseillère municipale, si elle veut bien.
Enfin, elle a démissionné de sa délégation, pour être clair.
Des questions que je me pose au sujet d'un marché, du marché qui a été passé par la mairie de Narbonne, par le maire de Narbonne, avec cinq groupements d'entreprises, qui, pour cette salle multimodale, un marché qui n'obéit pas aux règles classiques des marchés. Je n'insisterai pas sur l'aspect technique en question. C'est un marché qu'on appelle de conception-réalisation, mais que type de marché dérogatoire, en fait, au marché public traditionnel pour ce genre, en fait, de réalisation. Pourquoi ? Parce que ce genre de marché, ne peut effectivement être pris qu'à la condition que l'équipement qui va être réalisé obéisse à un certain nombre de considérations techniques qui rendent quasiment impossible la séparation entre l'architecte qui conçoit le projet et puis l'entreprise qui va le réaliser. Parce que c'est trop compliqué, voilà, par exemple.
Conception-réalisation.
Voilà, une blanchisserie industrielle avec toute une série de... Ou un laboratoire au souterrain extrêmement complexe. Je ne cite pas ces exemples par hasard. Ce sont des exemples qui figurent dans une circulaire.
Des textes réglementaires.
Dont les références, d'ailleurs, sont citées dans mon blog et sur le billet que je vais faire sur le sujet. Donc, je considère que ce marché-là, compte tenu de l'équipement pour lequel il a été passé, est illégal. En tout cas, serait illégal, j'utilise le conditionnel. Mais ma pensée, c'est qu'effectivement, c'est un abus, d'une certaine manière, de pouvoir, si on peut parler comme ça, quoi.
— Et tu cites d'ailleurs des extraits de jurisprudence. —
Ah oui. Non, mais je donne des exemples à l'appui. Et puis je m'appuie surtout sur une jurisprudence particulièrement claire, en fait, sur ce sujet, qui, pour ce même type d'équipement, à peu près les mêmes, quoi, s'est prononcée et a infirmé, donc a cassé, effectivement, ces marchés, notamment... pour la réalisation d'une salle multisport à Metz ou à Nancy, je ne sais plus. Donc, et la question que je me pose, en fait, que je pose à Mme Grani, mais que je pose aussi aux personnes ou aux institutions qui auraient eu intérêt à agir. Un architecte de Narbonne aurait eu intérêt à agir, par exemple, en contestant le marché. Alors...
Et l'opposition municipale aussi.
Le syndicat,
aurait pu
un
se
syndicat
manifester.
Ou un organisme représentant les architectes au plan régional ou au plan local aurait pu aussi le faire. Ils ne l'ont pas fait. J'ai la réponse à cette question, je ne la donnerai pas ici au micro. Quand on place effectivement l'indemnité au plafond, en fait, réglementaire de 100 000 pour les quatre candidats qui ne seraient pas retenus, bon, voilà, on dit en quelque sorte, pas la peine de trop manifester, quoi.
Oui,
en quelque sorte.
On se contente.
On se contente. Je pose aussi cette question-là, en fait, au contrôle de l'égalité, c'est-à-dire au préfet et à la sous-préfète. Comment se fait-il que le contrôle de l'égalité soit pas arrêté quelques instants sous cette délibération qui fait valoir comme caractéristique technique originale qui nécessiterait ce type de marché la planification et l'articulation des manifestations qui pourraient y avoir lieu. Enfin, je trouve ça presque comique. Troisième question à l'opposition municipale. Comment se fait-il qu'elle-même n'ait pas réagi, par exemple, en sollicitant, comme elle l'a fait pour une autre affaire d'ailleurs, beaucoup moins importante, c'était cette association qui sollicitait des subventions pour des cours de théologie.
Pour l'Institut catholique, oui.
On est président du groupe d'opposition, on écrit à la souveraine, on dit, écoutez, cette délibération me paraît bizarre, est-ce que vous pouvez pas me dire un peu quels sont vos éléments d'appréciation pour juger avec moi si oui ou non ce marché correspond, en fait, à la jurisprudence et au circulaire en question. Pas de réponse. Enfin, dernière question que vous venez poser, et c'est au président de l'agglo. Pourquoi la poser au président de l'agglo? Mais pour une raison simple, quand même. C'est un équipement qui, par ses caractéristiques, par ses caractéristiques. Gros équipement public, zone de chalandise qui dépasse largement en fait, le périmètre communal pour intéresser à tout le moins le périmètre d'une aire urbaine, dont celle de l'agglo, mais surtout bon, largement là aussi, si on va attirer effectivement des spectateurs pour remplir 5000, dès une salle comme celle-là, pour assister à un spectacle.
Pour toi, c'est du communautaire.
C'est de l'intercommunalité, mais pas, d'ailleurs, toutes les salles de ce type que j'ai pu effectivement regarder à droite à gauche, toutes ont été réalisées et sont financées par des intercommunalités. Absolument toutes, il n'y en a pas une seule. D'autant qu'en plus, dans le cahier des charges de ce marché, il est bien précisé que cette salle aurait comme fonction des fonctions qui sont typiquement dans la compétence, mais réglementaire, de l'agglo, à savoir une compétence pour gérer l'économie, parc d'exposition, séminaire, congrès, etc.
Oui, voilà. Enfin, on est vraiment dans
l'intercommunalité.
Et c'est sûr.
Et ce que je ne comprends pas, je pose la question, au vice-président, qui est là, d'ailleurs, notre invité, il pourra me répondre, j'espère, en tout cas.
Tout à l'heure,
comment se fait-il, dans cette affaire-là, alors qu'on sait bien qu'il y a un parc d'expositions qui doit être rénové, personne n'ait pris l'initiative du côté de l'agglo pour mettre, la mairie et l'agglo autour d'une table pour discuter, effectivement, de ce projet qui apparemment pourrait se faire de manière coordonnée et qui, pourrait être pris en charge par l'Intercom avec des financements venant de la région et d'ailleurs
tout à fait
important.
Voilà. C'est sur cette question que nous allons préparer notre deuxième pause en rappelant que notre invité est Henri Martin, qui est un des vice-présidents de l'agglomération du Grand Narbonne, notamment chargé des grands projets, parce qu'on va évoquer des grands projets. À tout de suite.